J'aime pas être bloqué derrière une chaire.
On est dans...
ça fait une palissade avec vous alors qu'on est tous pareils.
On est dans une église libre, donc on te laisse libre de...
C'est bien, c'est bien. Bonjour à tous. En fait, je ne vais pas me présenter parce qu'en fait, ce que je fais, on s'en fiche. Tout ce qui est important de savoir, je pense que je suis comme vous, une pêcheuse graciée. Voilà, c'est tout ce qui est important au final. Si jamais je dis des choses qui vous choquent pendant la prédication, attendez la fin de la prédication avant de sortir, parce que si ça se trouve, vous aurez l'explication de pourquoi j'ai dit ça. Voilà, je vous le dis juste avant, on ne sait jamais. Le texte qu'on va prendre aujourd'hui, il est un petit peu violent, on va dire. Alors, pas dans ce qu'il raconte comme situation, mais dans les mots qu'il utilise. Mais bon, c'est pas grave, on va le prendre quand même. Donc, c'est dans Matthieu. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Et les versets 21 à 23. C'est un petit texte, il n'y a que trois versets. Mais il est très particulier, très intéressant. Donc Matthieu 7, les versets 21 à 23, c'est Jésus qui parle et il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est le texte d'aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il était un petit peu violent quand même. Et lorsqu'on se présente aux gens, et là vous comprenez pourquoi j'ai pas voulu me présenter au départ, quand on se présente aux gens, on entend souvent la phrase « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» N'est-ce pas ? On est d'accord ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et en fait, c'est très représentatif de notre société qui est fondée sur le principe de productivité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et nous sommes bien trop souvent jugés sur ce que nous faisons plutôt que sur ce que nous sommes. Et dans le texte qu'on vient de lire, les personnes qui s'adressent à Jésus lui disent qu'ils ont prophétisé, qu'ils ont chassé des démons, qu'ils ont fait beaucoup de miracles. Et alors? Est-ce que c'est ça qui fait qu'ils vont entrer dans le royaume des cieux? Et Jésus, il dit que non. Et pourquoi il leur dit « Je ne vous ai jamais connu ». Ça, c'est fort, quand même. C'est très, très fort, c'est très violent. Alors qu'ils ont fait des choses au nom de Jésus, au nom de Dieu, ils ne le connaissent pas. Et malheureusement, il y a là un énorme problème que nous pouvons retrouver dans toutes les églises. Est-ce que notre reconnaissance en tant que bon chrétien passe par ce que nous faisons ou par ce que nous sommes ? Dites pas non, je sais que ça fonctionne aussi pas comme ça ici. Dans toutes les églises, je vous promets. Et du coup, ça pose la question, est-ce que notre valeur personnelle, est basée sur ce que nous faisons ou sur ce que nous sommes? J'ai eu l'idée d'écrire cette prédication il y a un an, je crois, même pas. Parce qu'en fait, j'avais entendu une personne de notre église, une personne âgée, malheureusement c'est souvent une personne âgée qui pense ça, mais il y en a d'autres aussi, qui disait « Je ne peux plus rien faire pour l'église, je me sens inutile, je ne sers à rien. » Ça m'a fait trop mal au cœur. Parce que ce n'est pas vrai. Mais parce qu'on ne se définit pas par ce qu'on fait. On prend l'exemple, les Israélites en Égypte, ça va pour tout le monde, le contexte un petit peu. Donc le peuple israélite qui est esclave en Égypte. Pourquoi est-ce que les Israélites avaient de la valeur pour les Égyptiens? Vous avez le droit de répondre. Parce qu'ils travaillaient. Parce qu'ils faisaient quelque chose. C'était pour ça qu'ils avaient de la valeur aux yeux des Égyptiens. Donc ça veut dire que, une fois libre et sorti d'Égypte, ils ne travaillaient plus. Ça, on est d'accord. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient plus de valeur? Ben non. Une fois sortis d'Égypte et libres, ils avaient toujours de la valeur. Et pourquoi? Parce que à ce moment-là, les Israélites se sont rendus compte qu'en fait, leur valeur était basée non pas sur ce qu'ils font, mais sur ce qu'ils sont et sur le fait qu'ils ont été choisis par Dieu et que leur valeur, c'est d'être le peuple de Dieu, d'être des fils et des filles de Dieu. Et c'est ça, leur valeur. C'est pas le fait qu'ils arrivaient à imbriquer pas mal de carrés pour faire les pyramides ou faire des briques ou de pouvoir nettoyer les palais ou de servir les Égyptiens. C'était pas ça leur valeur. C'est le fait qu'ils sont des fils et des filles aimés par Dieu. Alors, on va pas se mentir, ce qu'on fait, c'est une part de ce que nous sommes. Mais nous sommes avant de faire. C'est parce qu'on est quelqu'un qu'on fait quelque chose. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on est quelqu'un. Et lorsque nous nous définissons par nos actions, en fait, on inverse complètement le processus. Quand Samuel a dû oindre le nouveau roi qui allait remplacer Saül, qu'est-ce que Dieu lui a dit? 1 Samuel 16, verset 7. Les hommes regardent à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Et bien souvent, en fait, on ne le comprend pas. On connaît ce verset la plupart du temps, on est d'accord. Mais est-ce que vraiment on y a réfléchi, en fait? Parce que la plupart du temps, on ne comprend pas parce qu'on se base tous sur les apparences. Et nous voyons ce que font les autres alors qu'on a du mal à voir ce qu'ils sont. On ne va pas se mentir, quand on voit quelqu'un qui est là à toutes les réunions de l'église, qui est peut-être leader de louange, qui prêche, etc., on va se dire « Ah lui, c'est un bon chrétien ». Vrai ou pas? Je vois des sourires. Vrai ou pas? On est d'accord. Par contre, la personne qui va venir une fois sur six, qui sera au fond de la salle, peut-être même sur son téléphone, pendant la prédication, on va se dire « Oh là là, celui-là, quel mauvais chrétien ». Moi, ça me fait beaucoup rire parce que souvent, je suis la personne qui est au fond de la salle sur son téléphone à ce moment-là. Imaginez l'image que ça renvoie. Et pourtant, est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise chrétienne? On se base beaucoup trop sur les apparences et on juge les gens sur les apparences au lieu de s'intéresser à ce qu'ils sont vraiment. Et premier message que j'aimerais vraiment faire passer aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas aimé de Dieu parce que vous faites ceci ou cela, mais parce que vous êtes aimé de Dieu parce que vous êtes. Votre valeur ne passe pas par ce que vous faites pour l'Église. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, sinon Christian ne va plus jamais m'inviter, mais par principe, votre valeur ne passe pas par ce que vous faites. C'est parce que vous avez de la valeur pour Dieu, que vous avez été racheté, que vous allez mettre à contribution vos dons pour l'Église. C'est pas l'inverse. Dieu vous a créé pour vivre, pas pour travailler. C'est beau ça comme formule. Dieu t'a créé pour vivre, pas pour travailler. Ça veut dire que tu ne dois pas te sentir important par ce que tu fais, mais parce que tu es, parce que vous méritez. Alors, méritez pas dans le sens justement vous faites, tout simplement parce que vous êtes un être humain, vous êtes aimé par Dieu. C'est comme ça. Il y a un auteur qui s'appelle Peter Scarzero qui dit « La vie vaut plus que le travail ». Ça, il faut que ça rentre un peu dans la tête de pas mal de chrétiens. La vie vaut plus que le travail. Aux yeux de Dieu, votre vie, vous, votre relation avec lui est plus importante que si vous prophétisiez, chassiez des démons ou faisiez des miracles. Personne ne sort, donc pour l'instant ça va. Ce qui a de la valeur, c'est toi. Pourquoi est-ce que si on se base sur l'apparence de nos actions, cela peut être catastrophique? Je vais vous raconter une petite histoire. On a offert à un homme une plante très jolie, qu'on appelle un Schlumbergera, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un cactus de Noël en fait. C'est une petite plante grasse qui, à Noël, fait des super belles fleurs. Et donc une plante grasse très résistante. Moi qui arrive à faire mourir toutes les plantes, j'en ai un et il a survécu depuis 7 ans. Donc c'est vraiment très résistant. Un Schlumbergera. Et l'homme qui l'a reçu voulait qu'elle grandisse et même qu'elle fasse des belles fleurs. Logique. Alors il a décidé de l'arroser toutes les semaines. Ok. Chaque dimanche, il prend son arrosoir et il arrose son Schlumbergera. Et après une année entière, l'ami qui lui a offert la plante vient chez lui pour voir si le Schlumbergera a grandi et donné des fleurs. Seulement, la plante n'a pas grandi et elle a même commencé à mourir. Du coup, son ami lui dit « Mais tu m'as dit que tu en prenais soin et il est en train de mourir. » Et l'autre lui répond « Je sais, mais je comprends pas. Je l'arrose toutes les semaines pourtant. » Du coup, l'ami qui lui a offert la plante dit « Bah, montre-moi comment tu fais. » Et donc, le propriétaire de la plante prend son arrosoir et effectue le même geste que d'habitude. Et là, son ami l'éclate de rire. Il dit « Mais c'est normal que ta plante, elle meure. Il n'y a pas d'eau dans ton arrosoir. » Alors, qu'est-ce que pourrait nous faire comprendre cette histoire? En fait, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. L'arrosoir peut se pencher vers la plante, il peut effectuer ce geste. S'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, ça ne sert à rien. Et alors, on est d'accord, on pourrait dire que l'homme, il est bête. Osons le dire, on pense qu'il est bête. Que, évidemment, tout le monde sait qu'il faut de l'eau dans son arrosoir pour arroser. Ouais. Mais combien de personnes oublient que pour faire des choses pour Dieu, il faut commencer par être un de ses enfants? Mais c'est fou le nombre de personnes qui oublient ça, en fait. Si vous voulez répandre l'amour de Dieu, alors que vous, vous n'en recevez pas vous-même ou que vous n'en avez pas assez, alors vous allez dessécher les autres et vous dessécher vous-même. C'était une des choses qu'on m'a prévenu quand j'allais à la fac de théologie. On m'a dit « Attention, tu vas perdre la foi. Pourquoi ?» Mais parce qu'en fait, vous êtes tellement concentrés sur les textes que vous oubliez de vivre votre foi. Du coup, comme on m'avait prévenu, j'ai fait attention. Puis à la fac, on a 2 cultes par semaine, plus le culte du dimanche dans notre église. On arrive à 3 cultes par semaine, on est pas mal au niveau ressourcement. Enfin, même si venir au culte, c'est pas toujours un ressourcement, mais bon. Ne pas oublier d'avoir soi-même une vie spirituelle quand on fait des choses. Parce qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Se ressourcer soi-même avant d'essayer de ressourcer les autres. Du coup, comment on fait pour se ressourcer? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Shabbat? Ah, ça me fait peur un petit peu, il n'y a personne qui réagit. Vous avez déjà entendu parler du Shabbat ou du sabbat? Oui, d'accord. Bon, normalement, la plupart d'entre nous, on a déjà entendu ce mot barbare. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et pourquoi est-ce que Dieu y tient tellement? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait partie des 10 commandements quand même. Donc c'est une certaine importance. Et le peuple d'Israël s'est même retrouvé en exil pendant 70 ans parce qu'ils ne l'ont pas respecté. Ouais, c'est que Dieu il y tient, vraiment. Mais pourquoi? Le principe du Shabbat, c'est de se reposer en ne faisant rien de productif. Ça ne veut pas dire en ne faisant rien, mais en ne faisant rien de productif. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on parle depuis tout à l'heure? Je recite Peter Carzero, parce que je trouvais qu'il avait une super formule là-dessus. Il disait « Le Shabbat, c'est aussi le seul jour de la semaine où je crois et je le vis, une vérité fondamentale de l'Évangile, laquelle je ne fais rien de productif et pourtant je suis complètement aimé. » En fait, le Shabbat, il est là pour nous rappeler ce qu'on dit depuis le début, c'est que notre valeur ne passe pas par ce qu'on fait. Parce que ce jour-là, on ne fait rien, et que pourtant on est quand même aimé. Ça nous rappelle que si nous sommes aimés par Dieu, c'est parce que nous sommes, tout simplement. Et c'est là que ça coince pour pas mal de monde. Parce que, et moi la première, quand on doit se reposer, et qu'on doit ne rien faire, ben on a le temps de réfléchir. Et on se retrouve face à nous-mêmes. Et là, ça coince. Là, ça coince parce que, en fait, il y a tellement de gens qui sont accros au travail, qui sont incapables de s'arrêter, de se poser, de vivre le sabbat vraiment, ben c'est parce que s'arrêter, ça veut dire se retrouver face à soi-même. Éteindre le téléphone, la télé, la musique, se retrouver dans le silence, c'est se retrouver face à soi-même et ça fait peur. Le silence fait peur, l'inaction fait peur parce que c'est à ce moment-là qu'on ne peut plus échapper à la réalité de sa vie intérieure. En fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on remplit notre vie avec du vent et qu'en vérité, notre être intérieur, il est vide. Et c'est ça qui fait peur. C'est de se retrouver en face de nous-mêmes et de notre vide intérieur. Et c'est le désert. Et c'est très intéressant parce que le désert, c'est un mot qui fait trembler. Je suis sûre que si je vous disais « Ah, je vis vraiment un temps de désert », à la sortie de l'église, il y a des gens qui vont venir m'encourager, t'inquiète pas, ça va se passer, on est avec toi, on prie pour toi, machin. Bizarrement, vivre un temps de désert, c'est péjoratif. Mais, si on y réfléchit deux secondes, quand Jésus se met à part pour se ressourcer auprès du Père, pour prier, il le fait où ? Il le fait dans le désert. Il le fait dans le désert. Et en fait, nous, on voit le désert comme un endroit hostile, mauvais, inhospitalier. On est d'accord que c'est la représentation qu'on a du désert la plupart du temps. Sauf qu'en fait, Jésus, il nous montre que le désert, c'est un lieu de vie. Parce que c'est dans les moments de désert, dans ces moments de silence, que Dieu peut nous parler plus facilement. On n'a plus d'échappatoire, on n'a plus d'esquive. On est obligé, on est là. Bon bah vas-y, je t'écoute. Je peux pas fuir, c'est trop loin. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut grandir le plus. Je vais faire une petite parenthèse. Oser dire non à Dieu. Alors c'est bizarre parce que ça, je suis sûre que vous ne l'avez jamais entendu. Oser dire non à Dieu. Je vous explique pourquoi. Justement dans ces moments de désert. Parce que si Dieu vous demande quelque chose dans ces temps, alors pas forcément dans les temps de désert, mais il le fait particulièrement pendant les temps de désert, quelque chose qui vous paraît insurmontable, qui vous paraît impossible. Donne-moi ce traumatisme de ta vie. Donne-moi telle personne de ta famille. Des choses qui sont, mais, impossibles, en fait, pour nous. Ou alors, en tout cas, on les sent comme impossibles. Vous avez trois réactions possibles quand il vous fait ce genre de demande. La première, c'est de dire oui, alors que dans votre cœur et dans votre tête, c'est non. Du coup, vous allez le faire. Soit vous allez le faire en mouchonnant, soit finalement vous n'allez pas le faire. C'est-à-dire que vous aurez dit oui à Dieu, mais qu'au final vous ne le faites pas. Et si vous dites oui et que vous le faites en mouchonnant, c'est qu'en fait c'est hypocrite parce que ben, vous n'en avez aucune envie. Deuxième réaction, vous boudez. Vous ne répondez pas. Vous trouvez une esquive à ce moment-là pour éviter la conversation. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la relation, elle est coupée. On est d'accord. Sauf que si vous dites non, non seulement vous êtes en accord avec vous-même, je pense non, je ne veux pas, je dis non. Au moins vous n'êtes pas hypocrite. Mais ça permet aussi d'ouvrir la discussion. Parce qu'en général, la question qui va arriver derrière, c'est pourquoi ? Pourquoi tu ne veux pas ? Et là, ça va être vraiment le moment où vous allez pouvoir travailler avec Dieu sur quelque chose. Donc, osez dire non à Dieu. Je ferme la parenthèse. C'est dans les moments déserts qu'on peut grandir le plus. Je vais arriver sur la conclusion. Et je vous encourage déjà à ne plus avoir peur des temps de silence et des temps d'inaction. Parce que les temps, c'est dans ces temps de désert que vous allez vraiment grandir le plus avec Dieu. Et j'ai conscience qu'il y en a qui marchent avec Dieu depuis même sûrement plus que mon âge. Mais en fait, il y a toujours quelque chose à travailler, il y a toujours quelque chose à aller chercher plus loin. Et même si peut-être vous dites oui, mais moi ça fait longtemps, etc. Ouais, mais vous allez pouvoir évoluer encore. Quand on se dit que Paul, déjà, il disait, mais moi, j'ai jamais atteint la perfection, je pense que du coup, on a du boulot aussi. N'ayez pas peur des temps d'inaction, n'ayez pas peur du désert. Et deuxième chose, et parce que c'est là que vous pourrez aussi réellement vous reposer et vivre la grâce d'être aimé sans mérite, faites des Shabbats. Alors, c'est facile à dire, mais en fait, en vivant le Shabbat, vous dites à Dieu, j'ai compris que tu m'aimes pour ce que je suis et pas pour ce que je fais. Une des manières de faire le Shabbat, vous n'êtes pas obligé de faire toute une journée, faire deux jours. Commencez par des petits temps de silence. On fait 2 minutes. Ça peut être long, 2 minutes, mais c'est possible. Faites 2 minutes. Faites 2 minutes pendant une semaine. La deuxième semaine, vous faites 5 minutes. Et comme ça, vous rallongez au fur et à mesure des temps de silence. Et vous allez voir que c'est vraiment des moments où Dieu va venir vous parler. Alors peut-être qu'au début, vous allez dire, bon, bah, j'ai rien entendu de spécial. Des fois, Dieu, il parle, des fois, Dieu, il parle pas. On n'a rien besoin de dire, on a juste besoin d'un câlin. Dieu, il vient vous faire un câlin. Ça marche aussi. Mais prenez ces temps de silence, ces moments de Shabbat en fait, où vous ne faites rien de productif et vous acceptez juste d'être aimé pour ce que vous êtes. Dans Jean 15, verset 5, il est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Si vous essayez de mettre votre valeur dans ce que vous faites, ça ne marchera pas. C'est Dieu qui met de la valeur dans vos actions. Et avant ça, il faut que vous ayez conscience que votre valeur elle est dans ce que vous êtes. Je viens de parler des temps de silence et je vous propose une application directe et concrète. On va prendre 2 minutes. Je vais faire mon tremble. Juste 2 minutes de silence. Je ne sais pas comment vous priez des fois. Des fois, il n'y a rien à dire. Ok, juste silence. Vous allez voir, c'est intéressant des fois. Ce qui peut en ressortir. On va prendre, là il est 41, et ben à 43, on arrêtera le temps de silence. pour le fait tout simplement que tu nous aimes. Que tu nous aimes pas pour ce qu'on fait, mais simplement tu nous aimes pour ce qu'on est. Et aide-nous à vraiment pouvoir prendre conscience et accepter que notre valeur, elle passe par le fait que nous sommes tes enfants. Et que c'est ça qui fait que nous avons de la valeur. Que ce n'est pas par mérite, et que de toute façon on ne pourra jamais mériter ton amour, mais que tu nous le donnes simplement parce que c'est comme ça. Parce que tu aimes qui nous sommes. Amen.